Au nom de Jésus, amen.
Merci mon frère, merci Amish, merci à l'équipe de louanges aussi pour ces beaux chants. Merci, on peut les applaudir, hein. Merci beaucoup, bravo. Et merci aussi d'avoir rappelé, Amish, cette dualité, cette réalité entre foi et doute, également entre souffrance et joie. C'est un continuum, je crois, dans la vie chrétienne, mais c'est toute l'entièreté de la vie chrétienne. On souffre et on a la joie. Et ce qui nous est donné pour poursuivre et persévérer, c'est la foi. Et c'est ce qu'on va partager ce matin, on va parler de la foi. Alors aujourd'hui, je suis content parce que je vais vous partager un de mes chapitres préférés de toute la Bible. Alors vous demandez qu'est-ce que c'est. C'est Hébreux 11. Peut-être ça vous parle. Et quand on ouvre Hébreux 11, on pense immédiatement aux héros de la foi, aux grands noms. Noé, Moïse, Abraham, Sarah, Rahab. Tous ces exploits, ces miracles, ces vies transformées. Et souvent on se dit, si seulement j'avais leur foi, alors moi aussi je vivrais de grandes choses avec Dieu. Mais c'est peut-être là que se cache un piège. Car la foi ne garantit pas de résultat. Elle nous garantit une chose, et ça a été rappelé ce matin, Dieu est fidèle. Dieu l'a été dans le passé, Dieu le sera aujourd'hui, et Dieu le sera dans le futur. Hébreux 11 n'est pas d'abord un chapitre sur la prouesse des hommes, sur les exploits. Ce n'est pas un chapitre sur ça, c'est un chapitre sur la fidélité de Dieu. Ce n'est pas un chapitre sur les miracles, c'est un chapitre sur la foi avant les exploits. C'est d'ailleurs le titre de ma prédication, la foi avant les exploits. Car si nous lisons ce chapitre à l'envers, si on part des héros à la place de leur foi, on risque de se tromper. Et on va transformer la foi en performance et Dieu en spectateur de nos réussites. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais qu'on reste dans les 6 premiers versets du chapitre 11. On ne va pas voir tout le déroulé des grands héros de la foi. On va rester sur les 6 premiers versets. Parce que sans ces 6 premiers versets, tout le reste du chapitre perd son sens. Alors un petit peu de contexte dans l'épître aux Hébreux avant de démarrer, avant de lire cette épître. Personne ne sait qui a écrit la lettre aux Hébreux. C'est peut-être ce qui la rend aussi intéressante, parce que le thème de l'épître aux Hébreux, c'est Christ qui est au centre. C'est Jésus-Christ qui est médiateur d'une alliance plus excellente. Et peut-être en laissant l'auteur dans l'ombre, Dieu va davantage placer Christ au centre de cette épître. C'est déjà le centre de l'épître, et comme on ne connaît pas le nom de l'auteur, Dieu, j'ai l'impression que ça met encore plus Christ au centre. Et comme son nom l'indique, l'épître aux Hébreux, elle est adressée à des juifs du 1er siècle, à des chrétiens d'arrière-plan juif, des Hébreux. Et la plupart vivent des fatigues, des persécutions. Ils sont probablement stressés, ils commencent à annoncer leur foi, à vivre leur foi chrétienne, et ce n'est pas toujours facile. Et certains d'entre eux se posent déjà dangereusement la question, est-ce que c'est suffisant de suivre Christ? Et peut-être ce matin, vous vous posez également cette question, est-ce qu'il est entièrement suffisant? Peut-être vous êtes tenté de revenir, comme ces juifs à l'époque, en arrière, dans leur ancienne vie, dans leur rite, leur sacrifice. Peut-être vous êtes tenté de revenir à votre vie d'avant. En tout cas, l'auteur, ce qu'il va leur dire dans ce contexte-là, c'est qu'il n'y a rien, ni personne, de supérieur au Fils de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, on va lire Hébreux 11, 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est Hébreux 11, 1 à 6. C'était le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok ? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, je voudrais t'apporter tous nos doutes, toute notre souffrance, tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit. Seigneur, tu sais tout, tu connais tout. Tu connais chaque situation, tu connais le cœur de chacun, tu connais nos vies. Et Seigneur, nous voulons repartir après ce culte avec une portion de ta grâce, avec quelque chose qui nous accompagne tout au long de nos semaines. Seigneur, viens ressusciter cette foi en nous que nous avons en toi. Seigneur, c'est toi qui le fais, personne d'autre. Tu es le seul à la donner, c'est toi qui... Elle provient de toi. Alors Seigneur, aide-nous et viens nous combler ce matin. Amen. Alors je vous propose une prédication en deux points. À la fac, on aime bien avoir nos trois points, mais avec le conseil de Paul, on forçait de constater que dans ce passage, il y a deux mouvements. Il y a un premier mouvement, c'est la foi révélée, versets 1 à 3. Et le deuxième mouvement, c'est la foi vécue. Il va nous donner des exemples avec Abel et Caïn, et également avec Enoch. Donc vraiment, deux points. Et le premier point, la foi révélée, des versets 1 à 3. Première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la foi ? De quelle foi il s'agit dans ce contexte ? Lorsqu'on lit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère », de quoi il parle ? Et vous l'avez peut-être remarqué, notre passage commence par un « or », ce qui nous oblige à revenir un peu en arrière pour comprendre. Un petit peu le début de la phrase, elle ne commence pas juste par « or », il y a un début. Et parfois, les chapitres sont divisés, mais pas forcément au début de la phrase. Donc ça nous amène à Hébreux 10, juste avant, vraiment les deux versets juste avant. Hébreux 10, versets 37 à 39, pour bien comprendre. Alors ça dit « Encore un peu, un petit peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. » Et ça a été rappelé ce matin par Pierre. « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il semblerait ici que la foi soit celle qui sauve l'âme. En fait, la foi dans le salut. C'est celle qui ne se retire pas, mais qui s'attache à Christ jusqu'à son retour. Et là, vous avez peut-être reconnu une prophétie tirée du livre d'Habacuc, hein, mais le juste vivra par sa foi, dans Habacuc 2, verset 4. Et l'enchaînement de la pensée, c'est celle-ci. Puisqu'il nous faut attendre celui qui doit venir, alors nous vivrons par la foi jusqu'à ce qu'il vienne. Donc la foi en Hébreux 11, si on veut commencer à bien lire ce chapitre qui est magnifique, tous les héros qui vont suivre vont se placer dans une seule et même perspective, celle de la foi en Jésus-Christ, la foi dans le salut, d'être sauvé un jour. C'est le point commun de tous les témoins, c'est l'ancrage de tous les passages. La foi ne supprime donc pas l'attente, elle donne la certitude pendant l'attente. C'est par la foi que nous sommes sauvés, mais c'est aussi par la foi que nous persévérons. C'est un peu comme acheter un billet d'avion. Quand vous achetez un billet d'avion, une fois que vous avez votre billet, vous possédez deux choses. La certitude de prendre le départ au jour fixé et le moyen de l'attendre avec patience. De la même manière, la foi, c'est un peu notre billet d'avion pour le ciel. C'est en même temps l'assurance de notre salut et le moyen de l'attendre avec patience. Et ce que je voudrais dire sur peut-être ce que la foi n'est pas, petit excursus sur ce que la foi n'est pas, la foi, je crois que ce n'est pas un optimisme religieux. Je crois que ce n'est pas une pensée autoréalisatrice, autosubjective, comme du style « si j'ai suffisamment de foi, alors j'aurai cette promotion ».« Si j'ai suffisamment de foi, alors je serai guéri ».« Si j'ai suffisamment de foi, alors j'aurai ce mariage ». Parce que ça, les amis, c'est placer la foi dans la foi. Mais nous, on place la foi en Dieu. Il est l'objet de notre foi, ce n'est pas la foi dans la foi. La foi chrétienne, elle n'est pas centrée sur l'homme et sa capacité à l'avoir. Elle est centrée sur Dieu et sa capacité à agir. Alors, quelles sont les choses qu'on espère ? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelles sont ces choses ? Je crois que c'est toutes celles qu'on attend. Je crois que c'est toutes celles qui sont loin, et particulièrement celles qui se placent dans la perspective du salut, comme on vient de le voir par le contexte immédiat. La vie éternelle, la patrie céleste, hein, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la résurrection, le pardon des péchés, voilà tout ce qu'on attend. Autant de choses qui nous sont promises, mais pas encore visibles. Ce qui nous amène au deuxième membre, au deuxième segment du premier verset. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est fort, vous ne trouvez pas ? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et démontrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire apparaître. Fournir la preuve. Mais comment on fait apparaître quelque chose qui ne peut pas être vu ? Comment on fournit la preuve de l'invisible ? Les amis, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Romains 10, 17. Alors, qui croit ce matin que Dieu existe ? Amen. Qui l'a déjà vu ? Personne. Enfin, c'est possible, mais... Qui croit à la vie après la mort ? Et pourtant, est-ce que quelqu'un est déjà passé de l'autre côté et est revenu ? Qui croit que les prophètes ont réellement existé ? Est-ce que vous les avez déjà fréquentés ? Vous voyez, la foi commence là où la vue s'arrête. La foi commence là où la vue s'arrête. C'est pourquoi la foi est appelée à juste titre démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si l'œil voit la lumière, si l'oreille entend le son, la foi perçoit l'invisible. Alors que nos sens nous mettent en relation avec le monde physique, la foi, quant à elle, nous met en relation avec le monde spirituel. Et c'est comme ça, c'est par les yeux de la foi qu'on peut voir ce qui ne peut être vu. Alors, je vous propose une autre illustration, j'aime bien les illustrations. Elle sera peut-être d'actualité pour certains d'entre nous. C'est comme acheter une maison chez le notaire. Je sais, je regarde personne. Lorsqu'on achète une maison devant chez le notaire, il y a quelque chose d'invisible qui va se produire, n'est-ce pas ? Le droit de propriété va être transféré à l'acheteur. Pourtant, rien n'a encore bougé extérieurement. La maison est toujours au même endroit, toujours dans la même rue. L'acheteur n'y habite toujours pas. Et la seule chose qui nous l'assure, c'est la parole du notaire. De la même manière, lorsque Jésus est mort à la croix, quelque chose d'invisible et éternel s'est produit. Il a signé une fois pour toutes la vente de sa justice contre nos péchés. Il a transféré sa perfection à notre imperfection. Tout ça gratuitement. Et la seule chose qui nous l'assure, c'est la parole de Dieu. Et c'est la foi que nous mettons dedans. C'est donc par la foi que nous avons l'assurance du pardon de nos péchés, même si par la vue, nous péchons encore. Alors les amis, qu'est-ce que je regarde le plus dans ma vie ce matin ? Ce que je vois ou ce que Dieu dit ? Si Dieu déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je le crois même si je ne le vois pas ? Si Dieu déclare qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point et hérite la vie éternelle, est-ce que je le crois même si je ne le vois pas ? Dans le mouvement de cette foi, l'auteur va développer ensuite deux choses. Il va nous révéler deux choses. Le témoignage favorable de ceux qui croient et la parole d'un Dieu qui crée. Pardon. Deux choses. Le témoignage favorable de ceux qui croient et la parole d'un Dieu qui crée. Donc verset 2, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc ici, la seule chose qui rend favorable les anciens, qui va être détaillé, tous les grands héros, c'est leur foi en Dieu. C'est ça qui les justifie, rien d'autre. De même, aujourd'hui, la seule chose que nous pouvons faire pour plaire à Dieu consiste à croire en ce qu'il a fait. Et je la répète parce que c'est vrai, la seule chose que nous pouvons faire pour plaire à Dieu consiste à croire en ce qu'il a fait. Et je crois qu'on pourrait rougir devant la liste héroïque des hommes de foi dans cet épître, mais aucune performance, aucune œuvre, aucun sacrifice ne saurait justifier quelqu'un devant Dieu, si ce n'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et c'est ça que l'auteur veut démontrer aux Juifs de son temps. Ils sont tentés de revenir à la loi, ils sont tentés de revenir au rite, à avoir quelque chose de plus que Christ. Et c'est ça qu'il veut leur dire, il veut démontrer ce sola fide, ce salut par la foi seule. Alors te sens-tu moins approuvé que les autres ce matin ? Peut-être moins valable, moins compétent, moins pardonné ? Sache que si tu as la foi en Jésus aujourd'hui, alors tu es valable, tu es justifié, tu es pardonné, tu plais à Dieu, tu lui plais comme Abraham, Isaac ou Jacob. D'ailleurs, Dieu ne t'aime pas moins qu'eux et il n'honore pas moins ta foi qu'eux. Dieu t'aime. Car Dieu, les amis, n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie des appelés. Alors sentez-vous capable, sentez-vous compétent, sentez-vous pardonné. Placez votre foi en lui et le reste viendra. Ensuite, l'autre chose que la foi va nous révéler, ça concerne la création. Et j'aime beaucoup ce verset 3, je le trouve clé. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et ça, c'est une excellente illustration du point précédent, parce qu'en créant le visible, Dieu démontre l'invisible. Et ça, c'est la foi qui va nous le révéler. Tout ce qui est visible rend témoignage du Dieu de l'invisible. Par exemple, quelle est la preuve que quelqu'un a créé cet iPhone ? C'est l'iPhone lui-même. Quelle est la preuve que quelqu'un a créé cette montre ? C'est la montre elle-même. La preuve de l'horloger, c'est l'horloge. Vous êtes la preuve que Dieu existe. La création est la preuve du Créateur. Et l'apôtre Paul en parlait déjà dans l'Épître aux Romains. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Autrement dit, la création montre l'existence d'un Dieu, mais c'est la foi qui reconnaît le vrai Dieu, c'est la foi qui nous montre qui est ce Dieu de la Bible, le vrai, le seul, le véritable. Donc certes, l'homme sans Dieu est inexcusable, parce qu'il est lui-même la preuve que Dieu existe. Mais la condition pour le connaître, c'est d'avoir la foi. Enfin, pour ce qui concerne le mystère de la création, je crois que l'esprit humain est perdu et ignorant. Malgré les avancées spectaculaires de la science, auxquelles, je le rappelle, on ne fait pas compétition à la science, les deux vont ensemble, je crois que l'homme reste quand même perdu. Ne sait pas vraiment expliquer d'où il vient, et encore moins où il va. Alors que pour le chrétien, la pensée est tout autre, elle est simple. Le texte nous dit « L'univers a été formé par la parole de Dieu ». Voilà l'origine de tout, la cause incausée. Sa parole est créatrice, il parle et la chose arrive. Dit que la lumière soit et la lumière fut. Il ne s'embarrasse pas d'expliquer la création à sa créature. Il ne s'embarrasse pas d'expliquer l'inexplicable. Simplement, il va donner une phrase d'une simplicité déconcertante. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est tout. Et ça, c'est la foi qui peut nous le révéler. Donc en définitive, Dieu est créateur et l'homme croit l'être. C'est ça la réalité. Ça va, vous êtes avec moi encore ? Ok. Donc là, on va passer au deuxième point. L'auteur nous a montré ce qui était une foi révélée, une foi expliquée, qu'est-ce qu'elle nous montrait. Et là, il va nous montrer finalement une foi incarnée, une foi vécue. Qu'est-ce qu'une foi qui plaît à Dieu ? Et le premier des exemples, la longue liste des témoins, le premier de cette longue liste, c'est Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 4. Caïn et Abel, c'est les premiers enfants de l'histoire de l'humanité. Là, on parle humain numéro 3, humain numéro 4. C'est le tout début. L'aîné s'appelle Caïn et son nom veut dire obtenir, acquérir. Il y a beaucoup d'attentes sur lui, je crois, puisqu'il est né après la chute. Donc ses parents s'imaginent qu'il est peut-être celui qui viendra écraser la tête du serpent. Peut-être ça vous parle. Une question du proto-évangile dans Genèse 3,15 qui dit cette phrase « Je mettrai inimitié entre toi, parle au serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc les parents vont avoir Caïn et vont se dire « C'est bon, c'est lui. C'est lui qui va venir répondre à cette promesse. » Tandis que le petit frère, moi, il me touche beaucoup, ce petit frère. Pourtant, on ne sait pas grand-chose de lui, ni d'ailleurs de Caïn. Il s'appelle Abel. Et il est moins remarqué, moins attendu. Et son nom veut dire vanité, vapeur, poussière. C'est pas dingue. Je te présente mon frère, acquisition, possession. Puis moi, c'est voilà, vanité, poussière. Bon. Dès le premier couple de l'humanité, il y avait déjà des choses qui n'allaient pas. Mais en tout cas, voilà, il s'appelle vanité. Et peut-être vous connaissez la maxime d'Ecclésiaste qui dit vanité des vanités, se dit en hébreu avel avalim. Donc vraiment cette notion de choses passagères. On ne sait pas grand-chose de ces deux frères. Seul le texte fondateur de Genèse 4 va nous donner un petit peu plus de détails. Il va nous dire que Caïn était cultivateur, donc il travaillait la terre, tandis que Abel était berger, il s'occupait du troupeau. Et on sait qu'au bout d'un certain temps, les deux vont faire une offrande. Alors Caïn va faire l'offrande des produits de la terre, sans précision de quantité ni de qualité, tandis que Abel, lui, va offrir à Dieu ses agneaux, ses premiers-nés, ses meilleurs. Le texte nous dit ensuite « L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Et cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. » Genèse 4, 4 à 5. Donc le texte ne nous dit pas que l'offrande de Caïn était mauvaise. Le texte ne nous dit pas que c'était répréhensible, que son offrande était désagréable à Dieu. Mais simplement que celle d'Abel avait retenu l'attention de Dieu. Or, Caïn ne pêche pas en offrant des fruits. Mais il va pêcher après. Et Dieu regarde son visage et il voit qu'il est en colère, qu'il est assombri. C'est ça que Dieu va remarquer. Et comme un père attentif, il anticipe et lui dit « Cain, pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc là, on voit un Dieu gracieux, n'est-ce pas ? On voit un Dieu qui prend le temps de parler à Cain, qui lui montre la voie pour sortir de cette jalousie qui est tapie à sa porte. Il l'accompagne, il le reprend avec tendresse. Et je crois que d'ailleurs, Dieu a plus de mots pour Cain que pour Abel dans ce texte. Mais voilà, Cain se mure dans le silence. Il ignore, ne répond pas à Dieu. Il ignore les avertissements de Dieu, il prémédite le meurtre de son propre frère, puis l'exécute. Cain cède tellement fort à la jalousie, il cède tellement fort à l'envie qu'il va devenir le premier meurtrier de l'histoire. C'est là qu'il devient répréhensible. C'est à ce moment-là qu'il pêche pas avant. Il pêche pas par son offrande, il pêche ensuite. Parce que la tentation n'est pas un péché, mais y céder le devient. Alors voici donc deux frères, deux comportements, deux descendances. Celle de la justice, celle de l'injustice, celle qui plaît à Dieu, celle qui déplaît à Dieu, celle de la foi, celle de la justice propre. Alors, de quelle descendance faisons-nous partie ce matin ? Comment réagissons-nous face à l'envie, face à la jalousie, face à la colère ? Comment réagissons-nous face au regard favorable de Dieu sur un autre que nous ? Comment on réagit à ça ? Comment recevons-nous les avertissements de Dieu ? Acceptons-nous qu'il soit souverain, qu'il soit le juste juge, même si ça nous paraît injuste. Mais le texte ne s'arrête pas là, il nous dit une chose. Notre texte à nous dans Hébreux dit qu'Abel, précise, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. Mais qu'est-ce qui le rend plus excellent ? C'est sa foi. Encore une fois, c'est simplement la foi d'Abel qui rend son sacrifice plus excellent. Rien d'autre. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, nous dit le verset 4. À nouveau, pourquoi ? Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi ça plaît à Dieu. Mais le seul qui donne la foi, c'est Dieu. Il n'est pas donc question d'élever, si vous voulez, Abel en tant qu'homme. Là, l'idée, c'est d'élever sa foi en tant que croyant, dont la foi provient de Dieu comme un cadeau immérité. Alors vous me direz, pourquoi Abel et pas Cain ? Pourquoi Dieu porte un regard favorable sur l'un et pas sur l'autre ? Je crois que la parole nous répond déjà en Romains 9. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Ou alors que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Dieu est le juste juge. L'histoire d'Abel et Cain nous rappelle cette souveraineté massive de Dieu. Il est le juste juge et elle nous rappelle aussi l'importance d'écouter Dieu, de prendre au sérieux sa parole, de prendre au sérieux ses avertissements. Et je crois aussi surtout de bien agir face au péché. Lorsqu'on est tenté, lorsque le péché est tapis à notre porte, c'est justement avoir ce courage de bien agir, de le refuser. Abel a écouté Dieu. Cain a écouté son péché. Et vous, qui écouterez-vous ? Les amis, Dieu regarde au cœur et non aux choses visibles. Il prend des choses faibles pour en faire des fortes, des humbles pour en faire des glorieuses. N'est-il pas formidable d'ailleurs que celui dont le nom signifie « chose passagère », Abel, nous parle encore des milliers d'années plus tard. Donc le texte continue ensuite avec un deuxième exemple de foi. Celui qui marchait avec Dieu, Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et cette nouvelle histoire, elle n'est pas sans lien avec la précédente. Parce que lorsque Abel va mourir, Adam et Ève vont avoir un autre enfant, qui s'appelle Seth, qui veut littéralement dire remplacer, désigner. Donc spirituellement, Seth va désigner la continuité de la descendance d'Abel, celle de la foi. Et 6 générations plus tard, Seth va donner naissance dans sa lignée, à Enoch, dont il est question dans le texte. Donc on voit dès le début, en filigrane, cette double descendance qui va continuer jusqu'encore aujourd'hui, tout le long de l'histoire, cette double descendance, celle qui plaît à Dieu, celle qui déplaît à Dieu. Et on ne sait pas grand-chose non plus d'Enoch. Son nom veut dire le consacré, le dédié. Mais qu'est-ce qui fait de lui quelqu'un de si spécial, qui soit le seul avec Élie à ne pas avoir connu la mort ? C'est quand même pas commun, pas connaître la mort, d'être enlevé de Dieu, par Dieu. Et la réponse, s'il y en a une, elle se trouve toujours dans la même chose, c'est sa foi. C'est la foi qui plaît à Dieu. C'est pas qu'il méritait quoi que ce soit, c'est simplement qu'il plut à Dieu de faire ainsi, de l'enlever. Et en réalité, sa vie était un symbole. Et ce qu'elle illustre, c'est que celui qui marche avec son Dieu ne verra pas la mort. Donc si vous voulez, Abel montre l'offrande qui plaît à Dieu. Enoch nous montre la vie, la marche qui plaît à Dieu. L'un annonce la croix, l'autre l'ascension, mais les deux pointent vers Christ. Parce que c'est lui l'agneau d'Abel, c'est lui le sacrifice éternellement valable, c'est lui le chemin sur lequel Enoch marche. Il est ce Dieu qui s'est fait chair, qui est venu jusqu'à nous pour nous ramener jusqu'à lui. Il est le seul sacrifice éternellement valable. Il est le seul parfaitement agréable à Dieu. C'est pourquoi l'auteur termine avec ce verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car, les amis, si nous sommes quelque peu agréables à Dieu, c'est seulement en Jésus, seulement par la foi. C'est la seule chose agréable à Dieu puisqu'elle ne nous appartient pas. C'est la seule œuvre qui lui plaît parce que c'est la sienne, pas la nôtre. Ce que je dis souvent, c'est que Dieu est l'acteur, l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Mais en réalité, il ne nous dégage pas de toute responsabilité, puisqu'il nous dit de venir à lui en croyant qu'il existe et qu'il récompensera ceux qui le cherchent. Alors, pour conclure, Noé, Abraham, Moïse, Sarah, Rahab et tous les autres n'ont pas vécu de miracles parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce que leur foi reposait sur un Dieu extraordinaire. Hébreux 11 ne nous appelle pas à devenir des héros. Il nous appelle à faire confiance au seul vrai héros de l'histoire, c'est Dieu. Et devant ce Dieu, il n'y a pas 1000 positions possibles. Il y en a 2. Descendant de la femme ou du serpent, Abel ou Caïn, agréable à Dieu ou désagréable à Dieu, sauvé ou perdu. Et la seule chose qui fera passer l'une à l'autre, c'est comment on se positionne devant Jésus-Christ. C'est notre foi. C'est la seule chose qui nous fera passer de l'une à l'autre. C'est pour ça que l'auteur pose cette question qui m'a toujours frappé dès le début, au chapitre 2. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Il pose cette question, comment on va échapper à un si grand salut en le négligeant ? C'est une foi qui nous est donnée, qui est gratuite. Alors ce matin, si ce message vous interpelle, ne négligez pas un si grand salut. Amish l'a dit tout à l'heure, si vous avez à cœur de discuter à la fin du culte, et en général quand on dit ça, les gens ne le font pas. Mais si vraiment vous voulez, vous avez ne serait-ce qu'une question, prenez ce temps. C'est vraiment important. Je suis vraiment sérieux en disant ça parce que ce n'est pas juste une prédication pour bien la finir, c'est sincère. Je crois que s'il y a des questions ce matin, il faut qu'on puisse y répondre. Donc n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à venir voir quelqu'un que vous aimez dans l'assemblée, un frère, un aîné, voir quelqu'un du conseil. Mais si vous avez des questions, ne repartez pas. Je crois qu'on a vraiment besoin de se positionner devant ce Dieu ce matin. Alors, je vais conclure juste par la prière et je vous inviterai peut-être à vous positionner devant Dieu. Je ne vais pas vous appeler à vous lever, à lever la main, à montrer « oui, moi, je veux... » Voilà, on va le faire simple. Parce que je veux juste que vous vous positionnez dans votre cœur. Peut-être que vous leviez la main dans votre cœur en fermant les yeux. Alors, on va s'incliner, si vous voulez, dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour... le sacrifice éternellement valable que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ce Dieu miraculeux, dès le début de l'histoire, à travers l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tu nous révèles qui est ton Fils, ce que tu as prévu pour nous, pour lui et pour l'entièreté des nations, Seigneur. Merci parce que la foi est offerte au monde entier, à qui veut bien croire. Alors si ce matin, tu perçois, Seigneur, le cœur de certains qui brûlent, qui se posent des questions, qui veulent renouer avec toi, ou qui ne te connaissent pas, qui voudraient sincèrement te connaître, parce que la vie passe vite. Et un jour, on va tous mourir, et après quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut répondre à ces questions tant qu'on est là. Alors Seigneur, tu vois ces cœurs, tu vois ces familles, tu vois les gens aussi qui nous visitent, je te prie de leur donner la paix, de leur donner une parole d'encouragement, que ces mots résonnent dans leur cœur, Seigneur. Donne-leur des projets de paix, et non de malheur, Seigneur. Merci pour ton amour. Amen.